Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr.
La vérité est parfois plus dramatique, plus intense que la fiction la plus extravagante. Les noms ont été changés, mais ceci est l'histoire incroyable et authentique du navire qui donna au monde entier une sensation de culpabilité. Le voyage des damnés. Le 13 mai 1939, une cargaison humaine de 937 hommes, femmes et enfants, tous engagés dans une lutte désespérée pour la vie, quittait Hambourg, à bord du SS Saint-Louis, pour un voyage vers la liberté.
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à la représentation de l'histoire au cinéma. Pas spécialement d'ailleurs au cinéma historique, mais à plutôt comment le cinéma s'empare d'événements historiques, parfois en étant fidèle et parfois en étant totalement infidèle. Et donc on va parler de différents films durant cette émission, à savoir Le Voyage des damnés de Stuart Rosenberg, un film de 1977, Ces garçons qui venaient du Brésil, un film de Franklin J. Schaffner, un film de 1978, ça c'est chez Elephant Film. On va parler également de Khartoum de Basil Dirdan, sorti chez Rimini. On va parler d'Apocalypse Now Final Cut, sorti chez Pathé. Dans la deuxième partie de l'émission, nous causerons d'un film qui a défrayé la chronique récemment, J'accuse, de Roman Polanski, et nous en causerons avec Dominique Legrand, qui a écrit l'ouvrage La Passion Polanski, sorti maintenant il y a quelques temps, et qu'on avait reçu dans l'émission justement pour causer de l'ouvrage en question. Et on reviendra avec lui sur la manière dont le film est accueilli, et puis sur le film en lui-même, qui est un film d'une grande qualité artistique et qui mérite un débat approfondi, surtout lorsqu'on veut parler de la manière dont le cinéma sert ou dessert l'histoire. Merci à Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer histoire et cinéma, je suis accompagné de l'hirsute, voire du patibulaire Loup-Garou Picard. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site cultureaupoint.com quand il ne sévit pas dans sa propre émission de radio. Salut Thomas.
Salut Gégé, salut à toutes.
Premier film sélectionné par nos soins, Le Voyage des damnés de Stuart Rosenberg, qui traite d'un événement historique assez peu connu, en fait, qui se passe en 1939, au mois de mai 1939, le paquebot Saint-Louis quitte le port de Hambourg avec à son bord donc 937 juifs allemands en partance pour la Havane, leur nouvelle terre d'exil, une opération montée de toutes pièces par les services de propagande nazis. Et pendant ce temps, à Cuba, les agents du Reich se chargent de faire pression sur le gouvernement pour qu'il refoule le navire. Le gouvernement refuse donc de les recevoir, puis le gouvernement cubain, donc, et puis c'est au tour des États-Unis qui refusent également. Et en fait, ces passagers sont contraints de retourner en Europe. C'est alors que 200 d'entre eux menacent, dans une lettre signée, de se suicider s'ils retournent en Allemagne. C'est donc ça que raconte ce film. Alors, film riche en vedettes. Alors, film de Stuart Rosenberg, hein, réalisateur, par exemple, de Luc La Main Froide, réalisateur intéressant. Musique de Lalo Schifrin, avec une distribution comme seuls les années 70 pouvaient en produire. Hein, Faye Dunaway, Oscar Werner, Lee Grant, Sam Wanamaker, Malcolm McDowell, Max von Sydow, Maria Schell, Orson Welles, Catherine Ross, José Ferrer, enfin bon, je vous cite pas tout le monde, il y a aussi Ben Gazzara, Fernando Rey par exemple, enfin, il y a du lourd. Et puis il y a ce film, donc le film en lui-même que je trouve un film artistiquement moyennement intéressant, voilà, ce qui est un film malheureusement assez peu passionnant. C'est bête, parce que la destinée de ces passagers étant si peu connue, ça aurait mérité un grand film. D'autant plus qu'on parle d'un sujet qui est rarement abordé, puisque le cinéma a vocation à réécrire l'histoire. C'est aussi comment les frontières états-uniennes étaient très hermétiques. Avant que les États-Unis viennent sauver le monde avec le plan Marshall et leurs soldats, les frontières étaient très hermétiques et hermétiques aux Juifs. Voilà, mais pas qu'aux Juifs. Hein. Voilà, c'était pas un peuple accueillant, c'était pas un pays accueillant. Et donc, en fait, on a un film qui est plus une suite de scénettes, j'ai envie de dire. Enfin, scénettes est peut-être pas le terme approprié, mais qui est plus une suite de dialogues, d'événements. Voilà. Sans grand relief, c'est décevant de la part de Stuart Rosenberg. Alors le film peut être vu, alors si on veut polémiquer, peut-être comme un film sioniste, parce que quand on sort du film, on se dit il faut une terre pour les Juifs, mais encore, je pense même pas. Voilà. Je pense juste que malheureusement, c'est un film qui s'empare peut-être d'un sujet un peu trop grand pour lui et qui, en voulant faire un film spectaculaire, se loupe, en fait, tout simplement. Malgré tout, pour ce qu'il raconte, le film mérite d'être vu parce que je pense que aucun autre film ne parle de cet épisode tragique quand même de l'histoire contemporaine ou quasi contemporaine.
Stuart Rosenberg, c'est pas non plus un grand réalisateur. Il a fait 3-4 bons films, Luc la main froide, Brubaker, le flic ricanant. Après, il a fait des choses plus ou moins poussives. Hein. Je pense à Amityville, avec les compliments de Charlie, etc. C'est pas des grands films. C'est pas un si grand réalisateur que ça. Mais je pense qu'effectivement, Le Voyage des damnés pâtit d'une mise en scène que je trouve assez téléfilmesque. Et c'est bien dommage, parce que malgré cette mise en scène téléfilmesque avec des effets convenus, la musique là où il y en faut, etc., des transitions assez convenues, un montage très, très commun, quoi, je trouve que le sujet est passionnant. Le film ne m'a pas lâché, en fait, hein, malgré ce gros défaut qui est la mise en scène, quand même. Quand on va au cinéma, on espère quand même avoir de la mise en scène, c'est ça, c'est ce qui fait l'intérêt du cinéma. Malgré ce gros défaut de mise en scène assez feignante, hein, quelque part, qui se repose un peu, je pense, sur sa distribution, moi, j'ai trouvé le film passionnant parce que ce que tu as oublié de préciser, c'est que ce que voulaient montrer les nazis, c'est que personne ne voulait des juifs. Voilà, en faisant pression sur Cuba, en montrant que les États-Unis ne voulaient pas des juifs, enfin, parce que leurs frontières étaient très fermées, c'est qu'ils voulaient montrer dans cette opération de propagande que personne ne voulait des juifs, quoi. Et donc, il fallait trouver une solution que, hein, ils ont mis de façon un peu finale, quoi. Et moi, ce film m'a passionné. Je trouve que rien que pour ça, rien que pour cet épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale ou de l'avant-Seconde Guerre mondiale, le film vaut le coup. Il faut savoir aussi que le capitaine du bateau a été inquiété. Je crois que c'est dit dans le film, je ne sais plus. Le capitaine du bateau a été inquiété et il a ensuite été considéré comme héros comme injuste, je crois. Un héros de la Seconde Guerre mondiale ou injuste par la suite, après avoir été injustement inquiété, alors qu'il a quand même fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de sauver ses passagers.
Ce qui fait résonance avec aujourd'hui certains capitaines de bateaux qui sont traduits devant la justice lorsqu'ils veulent sauver des réfugiés qui voguent sur la Méditerranée. La Méditerranée, qui soit dit en passant, est un peu une sorte de cimetière marin immense maintenant, voilà. Et comme quoi, hein, l'histoire, même si elle ne se répète jamais totalement, elle a tendance a bégayé.
Oh, beloveds, oh, men of the desert, I am the Mahdi, the expected one. In a vision, the Prophet Muhammad has instructed me, let mountain and desert tremble, let cities shudder, and turn in fear of all those miracles to come.
Vous écoutez Culture Prohibée. Autre film, autre manière de traiter l'histoire, celle adoptée par Basil Dierdon pour Khartoum.
Khartoum, qui est un film qui date de 1966, les crédités Basil Dierdon, mais il faut savoir que Basil Dierdon finalement n'a pas fait grand-chose sur le film parce qu'il ne s'est jamais déplacé en Égypte ou au Soudan pour tourner les scènes qui se déroulent là-bas. Donc il a fait surtout ce qui est tourné en studio, les scènes de dialogue entre Charlton Heston et Laurence Olivier. Khartoum, c'est pas un grand film, c'est un film d'aventure honorable, on va dire sympathique hein, à regarder. C'est un film qui est à la fois complètement anachronique et qui résonne aussi avec l'actualité du moment. Tout film historique, on peut dire que quelque part, on trouvera toujours une résonance avec l'actualité du moment. Bon, anachronique, pourquoi ? Parce que ce film, aujourd'hui, il serait impossible à faire. Parce que Laurence Olivier incarne un sultan noir, un soudanais islamiste qui veut réunifier donc une partie de l'Afrique sous un ordre islamiste. Hein. Je dis bien islamiste, hein, je dis pas musulman, je dis bien islamiste. Hein, c'est bien intégriste qui veut réunifier une partie de l'Afrique ainsi. Donc ça résonne avec ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, avec Daesh, etc. Mais le gros problème, alors ça c'est la partie qui résonne avec l'actualité du moment, mais le gros problème c'est que Laurence Olivier est grimé. Laurence Olivier joue un noir, donc il est grimé en noir. Donc ce qui est aujourd'hui parfaitement inacceptable. Mais ce qui à l'époque ne paraissait pas si inacceptable que ça, ça pouvait passer... parce que ce qui comptait, c'était le jeu de l'acteur. Laurence Olivier, qui avait déjà joué Othello avant, hein, on le dit dans les bonus, et qui avait été repéré par rapport à ça. Et ce qui est intéressant aussi dans Khartoum, c'est donc la confrontation de ces deux grands acteurs, Charlton Heston et Laurence Olivier, qui Charlton Heston incarne un officier de l'armée britannique qui a résisté... à cette invasion qui a maintenu le siège de Khartoum jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que de ces deux personnages, de cette confrontation, Basil Dierdon et ses assistants en font deux fous de Dieu, en fait. Voilà. Les deux, dans leur façon, sont des intégristes. Et c'est l'autre intérêt de ce film, qui a aussi des scènes de combat quand même assez épiques, assez violentes. Mais bon, c'est un petit classique, on va dire. Voilà.
Est-ce qu'on peut qualifier de petit classique le film dont je vais parler ? En tout cas, c'est un film à part, c'est un film vraiment singulier, c'est un film vraiment étrange, c'est un film vraiment troublant dans sa manière de traiter l'histoire. C'est un film adapté d'un bouquin d'Ira Levin, qui est célèbre par exemple pour... Tous ses livres ont été adaptés au cinéma en fait, c'est une de ses particularités à ce monsieur. Et il a signé par exemple Rosemary's Baby, il a signé aussi Les Femmes de Stepford, enfin il a signé comme ça, tous ses bouquins ont été adaptés. Et celui-ci donc est adapté par Franklin G. Schaffner, grand metteur en scène de par exemple La Planète des Singes, la première version, réalisateur de Patton aussi si je ne m'abuse, donc qui a fait jouer des vedettes, hein, parce que George C. Scott avait eu l'Oscar pour son interprétation de Patton. Et Franklin G. Schaffner, réalisateur donc solide, pas non plus un génie du cinéma, mais un réalisateur solide qui sait faire des bons films. Et là, il s'attelle à un scénario quand même très singulier adapté de ce bouquin, puisque ça raconte l'histoire du docteur Joseph Mengele. Alors, de sinistre mémoire, puisque Joseph Mengele a vraiment existé. Il est mort, enfin, il y a eu plein d'histoires autour de sa mort, mais en gros, il est mort en se noyant au Brésil dans les années 70. Et il a vécu, après l'effondrement du régime nazi, quand même assez tranquillement en Amérique du Sud, hein, faut bien le dire. Hein. Et c'était moi je pense que c'était un psychopathe, ce mec, en fait. C'était un scientifique, un docteur, et qui pratiquait des expériences très cruelles sur les prisonniers du camp d'Auschwitz, si je ne m'abuse, je crois. Et qui était un grand malade, quoi, un type complètement dingue. Et le personnage est plutôt bien repris dans ce film, puisque là, dans ce film-là, il essaye toujours de travailler à travers des travaux sur l'ADN, à créer une sorte de race supérieure, une sorte de race aryenne, de race qui pourra dominer le monde. Et donc, j'emploie ce ton volontairement rigolard, parce qu'on est quand même dans quelque chose qui tient de la série B. Hein, je veux dire, c'est pas sérieux. C'est celui qui regarde ce film pour savoir comment on a découvert Mengele en Amérique du Sud n'apprendra rien, si ce n'est certainement le début du film qui est à peu près qui peut être à peu près évidemment assez juste, puis après tout le reste ça part dans un gros délire qui est pas loin d'ailleurs de rappeler des films un peu comme La Malédiction de Donner, avec une histoire de gamin maléfique et tout, enfin j'en dirais pas beaucoup plus, et en plus le gamin a une drôle de tronche, enfin, il a vraiment un côté flippant, cette sorte de gamin qui serait donc le représentant de la race aryenne, mais je vous en dis pas plus, vous le découvrirez en voyant le film. Mais quoi qu'il en soit, le film est quand même très troublant, parce qu'il part de personnages existants, donc ce Mengele, donc qui serait donc là, qui est interprété par Gregory Peck pour le seul rôle de méchant de toute sa carrière. Gregory Peck, quand même, qui est l'un des plus grands acteurs de toute l'histoire du cinéma de tous les temps, de l'univers, du monde. Je pense que Thomas ne me contredira pas. Et qui livre pas sa meilleure composition, on va dire, dans ce rôle où il cabotine un peu, il se fait la petite moustache de Mengele. Malgré tout, ça reste Gregory Peck. Moi, j'ai toujours coutume de dire que quand dans un plan de cinéma, dans le cadre, il y a Gregory Peck, bah, c'est tant pis pour les autres. Parce qu'ils n'existent plus vraiment, quoi. Voilà. C'est comme ça, c'est un immense acteur. Alors, il y a d'autres immenses acteurs dans le film. Il y a le chasseur de nazis, Ezra Lieberman, qui est campé par Laurence Olivier, qui est excellent. Et là, c'est très, très troublant, parce qu'il s'inspire d'un chasseur de nazis qui a réellement existé, hein, puisque c'est Simon Wiesenthal qui a justement permis, entre autres, d'attraper Adolf Eichmann et Karl Silberbauer. Alors Karl Silberbauer, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est l'homme qui avait arrêté Anne Frank. Donc c'est très troublant. Du coup, le film est très troublant. Et en fait, ce vieux monsieur reçoit l'information comme quoi Mengele est en Amérique du Sud. Ce qu'il sait déjà, ce qu'il dit à son interlocuteur. Écoute, tout le monde le sait qu'il est en Amérique du Sud. Enfin, c'est pas une nouveauté, quoi. Mais là, il découvre que Mengele mène des expériences, y compris des expériences en Europe. Et je vous en dis pas plus, parce qu'il faut voir le film, quoi, pour son côté trépidant, série B, comme ça. Et il va aller chasser Mengele, et ça va se terminer dans un duel, un croisement entre, film de Doberman et Western, quoi. Et c'est quand même un film vraiment, vraiment étrange, Thomas.
He betrayed me! He betrayed you! He betrayed the Iron Race!
Get a doctor!
I am a doctor, idiot.
Don't you come near him!
Shut up, you ugly bitch.
Thank you.
écoutez Culture Prohibée, spéciale histoire et cinéma.
Je pense que justement, cette façon qu'il a de jouer, de cabotiner Grégory Peck, je pense que c'est complètement voulu parce que le film est bourré d'ironie. En fait, quand on revoit les films de Franklin G. Schaffner, il y a beaucoup d'ironie. La planète des singes, c'est un film qui est très, très drôle, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'ironie. Il se moque de ses personnages, mais tous. Hein. Il se moque de tous ses personnages. Et notamment, il y a cette séquence de buffet où il s'attaque à un gars parce qu'il croit qu'il devrait être en mission, il croit qu'il n'est pas à sa mission et il s'attaque à lui. Et là, c'est là qu'on voit, qu'on comprend vraiment qu'il se moque vraiment de ce personnage et un peu de son sujet aussi et qu'il ne le prend pas vraiment au sérieux. Le film est vraiment bourré d'ironie, mais en même temps, la fin est très ambiguë. La fin a quelque chose d'assez ambigu qui peut effectivement, tu le dis, rejoindre un peu la malédiction de Richard Donner quelque part. Et qui finalement montre plus d'ambiguïté au personnage incarné par Laurence Olivier qu'on pourra penser qu'il en a en fait au départ.
Je tiens à signaler aussi que dans un second rôle, il y a James Mason qui ne prend pas non plus toujours au sérieux ce que veut faire Grégory Peck, qui est une sorte de général militaire qui travaille en fait, qui dirige en tout cas les opérations militaires un peu ou d'espionnage, enfin bon voilà, de cette opération Mengele, hein. Voilà, je vous en dis pas plus. Dernier film historique dont tu voulais parler, enfin historique en tout cas, qui est un vrai faux film sur l'histoire en plus, qui est plutôt qui raconte autre chose, c'est le Apocalypse Now, Final Cut. Alors un énième cut de Apocalypse Now, Thomas, qui vient donc de sortir, le chef-d'œuvre de Coppola, une nouvelle fois remonté.
Et oui, Coppola remonte son film apparemment une dernière fois. Hein, ce sera le dernier montage d'Apocalypse Now qui ne fait que 3 heures. Hein, non pas 3h10 ou 3h15. Hein, qui fait donc que 3 heures et qui est donc fait plus long d'une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure par rapport à la version salle qu'on a tous connue au départ. Et là, cette fois, il a coupé dedans, voilà. Il a laissé les scènes qu'il avait, il a laissé la majeure partie des scènes qu'il avait ajoutées pour le Radiux. Donc, notamment la scène de la plantation française, qui en dit beaucoup sur justement comment les gens ne se laissent pas coloniser comme ça, quoi. Sur la pugnacité aussi des colons et la pugnacité des autres qui ne veulent pas se laisser coloniser. Mais il a retiré une scène qui, moi, me semblait complètement inutile. C'est la scène où il retrouve les playmates un peu échoués au bord du fleuve, qui se faisaient un peu chier. Je trouvais que cette scène n'apportait pas grand-chose. Il l'a enlevée. Donc là, c'est le final cut, 3h01, je crois. Je regrette, moi, ce que je regrette dans ce montage, c'est qu'il n'a pas laissé le générique comme on le voyait au cinéma, dans la première scène où on voyait justement une destruction du camp de Kurtz par les flammes, par le napalm, qui, à mon avis, reflétait bien le côté fin du monde, le côté noir du film sur la fin de l'humanité. Mais ça, il l'a laissé tel qu'il l'avait déjà mis dans le Radiux. Alors, l'image, elle est superbe. Hein. Le Blu-ray est superbe. Alors, c'est un coffret qui présente 4 ou 5 films avec le Blu-ray 4K, le Blu-ray normal. Puis, je crois qu'il y a les DVD aussi, mais je ne suis pas sûr. Hein. Donc, il y a les 3 montages du film. Il y a le Final Cut, le Radiux et le montage sale. Donc, ceux qui n'ont jamais vu Apocalypse Now, vous pouvez le revoir. L'image est superbe, comme au cinéma. Hein. Ce n'est pas l'image glissée comme on peut le voir sur certains Blu-ray. Et c'est un moment de pur plaisir de redécouvrir Apocalypse Now.
Et si vous avez quelques jours devant vous, vous pouvez vous faire toutes les versions d'affilée. Là, comme ça, c'est un peu comme les coffrets Blade Runner. Il y a des tas de montages différents. Après, faites votre choix.
Il y a aussi, faut savoir qu'au départ, le personnage du surfeur, c'est le même personnage que Big Wednesday, hein, le film de John Milius. Hein. Je ne suis pas sûr que John Milius apprécie tellement le traitement de la guerre du Vietnam par Francis Ford Coppola. Parce que c'est plus un film sur la guerre qu'un film de guerre.
Autre film qui parle de la guerre sans que ce soit vraiment la guerre, d'ailleurs. Mais elle va pas tarder à arriver, on est dans l'entre-deux-guerres, on va dire, avec nos amis prussiens-allemands, c'est le J'accuse de Polanski. J'accuse de Polanski, donc, qui est sorti maintenant, au moment où on enregistre cette émission, depuis quelques semaines. Alors, qui déclenche toute une polémique sur le fait de devoir le voir ou pas le voir. Bon, voilà, on a fait le choix de le voir. Parce que je ne vois pas pourquoi on se priverait d'un film aussi passionnant sur l'antisémitisme, d'un grand film historique, puis d'un grand film tout court, d'un grand metteur en scène. Tout en étant nous, je veux dire, effectivement, si les faits qui lui sont reprochés sont exacts, ce sont des faits qu'on condamne sans équivoque. Mais nous, on est là pour parler de cinéma. Et donc, on est là pour parler du J'accuse de Polanski. Et justement, de la manière dont il traite l'histoire, le J'accuse de Polanski, il le fait de manière très pertinente, très intelligente. Et sans manichéisme, justement, c'est ça qui est très très intéressant. Et du coup, on a décidé d'en parler, et d'en parler avec Dominique Legrand, qu'on avait reçu dans l'émission, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait « La passion Polanski », qui est une grande lettre que Dominique Legrand avait envoyée à Roman Polanski, enfin qui, voilà, depuis il l'a rencontré sur le tournage de J'accuse, d'ailleurs on va en parler avec lui de tout ça, mais à l'époque il ne l'avait pas vraiment rencontré, voilà, il avait été le voir au théâtre, tout ça, mais il ne l'avait pas vraiment rencontré, et c'était une lettre passionnée d'un cinéphile à son réalisateur préféré, et c'était très intéressant, bien sûr, et on va parler avec lui du coup de ce film, J'accuse. J'accuse, Thomas, qui est un film qui, je pense, tout comme moi, t'as particulièrement, m'a particulièrement passionné. Et c'est d'ailleurs regrettable, je pense, que, enfin, pas que la polémique ait lieu, parce que si les faits sont avérés, malheureusement, la polémique, elle est inévitable. Mais je trouve que c'est regrettable, par exemple, comme un acteur comme Jean Dujardin, qui, moi, je ne l'ai jamais vu aussi bon que là, dans le rôle de Picard, puisque ce film, c'est l'histoire de Picard. Picard, qui est l'homme qui, à la fois, a fait condamner Dreyfus, et l'a innocenté ensuite. Voilà, c'est ça qui est passionnant dans le film d'ailleurs. C'est le parcours de cet homme. Film dont on va parler ensuite plus en détail avec Dominique Legrand.
Un Polanski comme on aime, c'est-à-dire un Polanski bien paranoïaque, avec des ambiances sombres, à la limite parfois du fantastique, hein, comme il faisait déjà dans The Ghostwriter, que moi j'aime beaucoup, avec une mise en scène que je trouve vraiment très peu spectaculaire. Il y a quelques, parfois il met un peu de musique à certains moments, mais elle est très peu présente, très peu spectaculaire, et puis un montage sec, un montage surtout au cut, sec, une image blafarde, un film qui est très sombre, autant dans son image que dans ce qu'il raconte, parce que l'antisémitisme, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus joyeux non plus, hein. Mais effectivement, c'est un des meilleurs Polanski qu'on a pu voir ces dernières années. Tout du moins, c'est toujours meilleur que D'après une histoire vraie, qui était vraiment un énorme navet qui racontait rien. Et là, Roman Polanski retrouve une grande forme telle qu'on aimait avec The Ghostwriter ou Le Locataire ou des films troubles comme ça.
Tout ce que tu dis est absolument juste et on va pouvoir en échanger tout de suite avec Dominique Legrand. Donc Dominique Legrand au micro de Culture Prohibée. Voulais aborder, puisque on sait que tu es un passionné de Roman Polanski, puisque d'ailleurs c'est le titre de ton ouvrage La Passion Polanski qui était paru chez Marais Éditeur, dont on avait parlé dans l'émission. On sait que tu es passionné par ce cinéaste. Je sais aussi que tu es allé le rencontrer sur le tournage de J'accuse. On va peut-être commencer par là d'abord, avant de parler en plus ample détail du film. Le tournage de J'accuse, quand même, quelle expérience ça a dû être?
Alors, ça a été une expérience forcément inoubliable, parce que, bon, je vais pas repartir à l'origine, mais c'est vrai que moi, j'ai une très très grande passion pour Polanski depuis 14-15 ans, enfin l'âge de 14-15 ans. Donc elle a été entretenue, nourrie par ses films, par ses interviews, par le fait de revoir indéfiniment ses films, de travailler dessus, de réfléchir dessus. Et puis... Bon, j'ai écrit ce livre, La Passion Polanski, qui résumait en fait, voilà, ce qui était assez, qui était une lettre ouverte, hein, qui résumait en fait ma passion vraiment vraiment très très grande pour ce cinéaste. Bon, j'aime beaucoup d'autres cinéastes, mais c'est vrai que pour lui, j'ai une passion particulière pour son œuvre. Et en même temps, je me disais, la seule chose qui manque, c'est le fait de le rencontrer. Alors, je l'avais croisé à deux, trois fois, mais vraiment d'une façon très fugitive. Bon, c'était... Enfin, fugitif, c'est pas un bon terme, mais très rapide. Et on, voilà, on n'avait pas pu vraiment échanger, quoi. Et puis, j'ai insisté, je dirais pas lourdement, mais j'ai insisté en essayant de contacter voilà, son agent, sa production. Et puis, finalement, j'ai fini par envoyer un mail à la production. Et puis, un jour, j'ai reçu ce Sésame extraordinaire, qui était un mail de Polanski, qui me disait, bah, écoutez... Ouais, j'ai bien reçu le livre, ça m'intrigue. Il ne l'avait pas encore lu à l'époque. Et il m'avait dit, quand le tournage commencera, revenez vers moi, je vous inviterai une journée sur le tournage. Donc, il a tenu sa parole. Hein, donc, voilà, je l'ai rappelé à mon bon souvenir quelques jours avant le début du tournage. Et puis, j'étais en contact avec sa secrétaire, enfin, son assistante. Hein, c'est plus qu'une secrétaire, son assistante. Vraiment, elle gère vraiment tout. Tout son planning de tournage. Et elle m'a rappelé plusieurs fois. Et on avait fixé une journée bien précise, qui était le lundi, le mardi, je crois, 15 janvier. Voilà, et c'était un tournage qui se passait à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Hein, quand on a le film en tête, c'est ce passage où Picard vient récupérer une enveloppe, finalement, qui est laissée dans la cuisine, dans l'église. Et voilà, c'est une scène qui a été tournée, qui a pris quand même quasiment un après-midi, hein, pour tourner quelques plans. Et voilà, et donc il a été charmant sur le tournage, hein, il a été adorable. Il m'a reçu à midi, hein, et il m'a dit, bah, écoutez, on va tout de suite aller manger, parce qu'il y a un petit problème de groupe électrogène qui est en panne, donc on va en profiter pour aller déjeuner. Et finalement, j'ai eu le privilège de déjeuner avec lui, face à face, pendant une heure, de pouvoir discuter, échanger, avant qu'on commence la journée de tournage, enfin l'après-midi de tournage. Et en fait, voilà, donc après le tournage s'est déroulé jusqu'au soir, hein, donc là il était vraiment la tête dans le guidon, hein, très très concentré sur tout ce qu'il faisait. Mais il est quand même venu me voir deux, trois fois en me disant, voilà, est-ce que ça vous intéresse, comment vous trouvez ça, ça vous plaît, vous ennuyez pas, enfin. Et vraiment, il a été vraiment charmant jusqu'au bout. Et voilà, donc ça, c'était une journée inoubliable, si on peut dire. Voilà.
Ouais. J'imagine bien. Enfin non, je n'imagine pas d'ailleurs, mais bon, je pense. Et alors, comment il travaille, Roman Polanski, sur un plateau, puis après, on va quand même parler du film, mais comment il travaille, là, en l'occurrence, pour cette scène? Bon, je me rappelle très bien, puisqu'on a, au moment où on enregistre l'émission, on a vu le film il y a peu de temps avec Thomas. Comment travaille-t-il? Donc, comment est-il sur le plateau, Roman Polanski?
Ah, il est très, très, mais ça, on le sait depuis le début, il est très, très perfectionniste. Il est très méticuleux, il ne laisse rien passer, pas un détail, surtout d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a ces écrans de contrôle, ça fait déjà pas mal de décennies qu'ils sont dans le cinéma, hein, ça a commencé dans les années 80, mais avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, on peut contrôler l'image au fil du tournage, au fil des prises de vue. Et donc, il travaille en étroite collaboration avec son chef opérateur, qui est le même, je crois, depuis le pianiste, qui est Pavel Edelman, qui lui a fait une lumière absolument magnifique dans le film, qui correspond vraiment, à chaque fois, il s'adapte vraiment à ce qu'il veut. Et il est très, très, très méticuleux. C'est-à-dire, il règle tous les détails. Par exemple, il y a un détail tout bête, hein, le moment où Picard, donc Jean Dujardin, s'assoit sur le banc de l'église, et il trouve sur le banc qui est devant lui, il trouve un livre d'église, un missel. Il le regarde et il le feuillette et il le repose sur le banc qui est juste devant. Et en fait, il a bien vérifié qu'il le reposait au même endroit. Enfin, il fait presque le travail d'une script, hein. Donc il vérifie tout, il vérifie tous les détails, le nombre de pas pour se rendre à tel banc. Enfin, tout est vraiment au cordeau. Les cadrages sont réglés vraiment comme des tableaux, hein. C'est absolument incroyable. Il y a un effet de profondeur en plus dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois qui a été obtenu avec des panneaux lumineux, des projecteurs qui illuminaient jusqu'au fond de l'église, hein. Donc ça donnait l'impression vraiment, c'était plus une église, c'était quasiment une cathédrale, et vraiment tout est réglé. Il est très très concentré sur un tournage, hein, très concentré. À partir du moment où la journée de tournage est lancée, et là en l'occurrence, la journée de tournage a commencé en grosso modo vers 1h30, 2h, vers 14h, et il sait qu'il n'y a pas de temps à perdre, quoi. Voilà, et là, faut pas plaisanter. À partir du moment où c'est lancé, ça rigole plus et il travaille vraiment d'arrache-pied. Il est hyper concentré jusqu'au soir. Hein. Voilà. Donc, il a toujours été comme ça. Hein. Dans le travail, il est extrêmement sérieux, très très précis. Quoi.
Pour moi, en tout cas, c'est le meilleur film de Polanski que j'ai vu depuis The Ghostwriter. Je t'avoue que son précédent, d'après une histoire vraie, m'avait quand même, j'avais trouvé vraiment mauvais. J'avais pas adhéré. Hein, j'avais trouvé ça vraiment pas bon. Ça peut arriver même au meilleur, la preuve. Et là, je trouve que c'est non seulement un excellent film, mais en plus, c'est une sorte de film somme. On retrouve vraiment toutes les obsessions et les thématiques de Roman Polanski. C'est la première partie du film peut faire songer au locataire quand Picard prend place dans les lieux, les bâtiments du renseignement, avec cette même ambiance un peu kafkaïenne, un peu étrange comme ça. Ensuite, on a toute la partie enquête aussi qui est très effrayante. On a l'impression que c'est presque dans un monde irréel. Et puis arrive pour moi ce monument de mise en scène, c'est la manière dont il illustre la manière dont est reçu le texte de Zola. J'accuse. Je trouve que c'est un moment de mise en scène extraordinaire. C'est voilà, en faisant lire par tous les premiers acteurs de l'affaire l'article de Zola, et puis tout de suite derrière, il nous projette vers ce qu'était la France de l'époque. Alors, certains historiens vont dire que ça dure trop peu de temps, mais c'est-à-dire une France que l'affaire a énormément divisée et une France où l'antisémitisme est très 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 présent, et je trouve que ça c'est très fort, et je trouve le film très fort jusqu'au bout. Et d'ailleurs, j'adore même les petites minutes qu'il a rajoutées, cette dernière rencontre entre Dreyfus et Picard qui prouve que le film du début à la fin n'est jamais manichéen et d'une intelligence rare.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un film, tout cela est vrai, Jérôme. C'est vrai que c'est un film qu'il devait faire depuis très très longtemps. Il y a une longue collaboration qui s'est instaurée entre Polanski et Robert Harris. Ils ont failli faire un film ensemble qui s'est jamais fait, qui était Pompéi, d'après un roman de Harris. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu The Ghostwriter qui a un peu scellé leur amitié et leur façon de travailler. Et puis, après The Ghostwriter, déjà, ils avaient déjà l'idée de faire quelque chose sur Dreyfus. Robert Harris est un formidable écrivain, un très très bon écrivain de thriller, mais surtout un doublé d'un très très bon historien. C'est-à-dire que quand il s'attaque à un sujet, il l'a fait par le passé dans d'autres romans qui n'ont pas été adaptés, ou certains ont été adaptés par d'autres que Polanski. Il est toujours très très précis, très méticuleux dans ses recherches. Et là, il a amassé de la documentation depuis des années. Il est passionné par l'histoire de Dreyfus. Et quand ils ont commencé à travailler, ils n'ont pas pu faire le film tout de suite. Il y a eu des problèmes de production. Et Robert Harris lui a dit « Bon, c'est pas grave, je vais écrire un roman en attendant, qui sera l'histoire de l'enquête de Picard. » Et le roman est sorti il y a quelques années, qui s'appelait D avec un point, hein, comme le D et le point qui figurent sur l'enveloppe où sont les documents de l'affaire Dreyfus. Et puis, à ce moment-là, ils n'ont pas pu réussir à monter l'affaire, à monter le film. Et c'est vrai que d'après une histoire vraie, c'est pas son meilleur film, loin de là. Bon, c'est un honnête film, mais un petit peu décevant dans la carrière de Polanski. Il a été fait parce qu'il ne pouvait pas faire Dreyfus. Hein. C'est un film qu'il a fait en attendant, si on peut dire. Et tout de suite après, c'est vrai que là, ils ont pu avoir les coups des franges pour monter le film. Et le film s'est construit comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a un travail qui est exceptionnel au niveau du scénario. C'est vrai, ce que tu disais, que c'est un film dans lequel on peut retrouver beaucoup de choses de Polanski. C'est un film, déjà, c'est un film d'intérieur. Et Polanski n'est jamais aussi bon que quand il fait des films qui se passent en huis clos. Et c'est vrai qu'on suit Picard, on suit Jean Dujardin du début à la fin. C'est vraiment, c'est pas tellement un film sur Dreyfus. Il y a deux, trois passages où on voit Dreyfus à l'île du diable. Il aurait pu très bien ne pas les mettre. C'est pas ce qu'il a réussi de mieux d'ailleurs dans le film. Ces passages un petit peu en sépia, un petit peu simplement pour rappeler aux spectateurs que pendant ce temps-là, Dreyfus est quand même sur l'île du diable, qu'il attend, qu'il est en prison. Voilà, faut pas oublier ça. Et je crois que ces deux trois passages qui sont quasiment des plans hein, d'ailleurs, c'est pour nous rappeler que pendant ce temps-là, il croupit en prison et il attend. C'est un innocent en prison. Mais c'est vrai que le personnage principal, c'est Picard. On le suit dès le début, hein, dès la scène de la dégradation, qui est une scène extrêmement violente d'ailleurs, hein, et jusqu'à la fin, jusqu'à ce final, cette dernière scène qui est très importante pour moi, parce que ce qui est important, il y a deux choses importantes, c'est que Picard est quelqu'un qui est antisémite, et c'est vrai que à l'époque, bon, c'est pas plus justifiable aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on était très facilement antisémite à l'époque, au sein des administrations, au sein de l'armée, et finalement, il appartient à un courant de pensée qui est tout à fait dans l'air du temps de l'époque. Hein. Et il y a une scène d'ailleurs qui est assez intéressante au début, où il y a un échange dans un couloir entre Picard et Dreyfus, qui l'accuse un peu de l'avoir mal noté. Il lui dit, en fait, vous m'avez mal noté parce que vous êtes antisémite, parce que vous n'aimez pas les Juifs. Et Picard lui répond, oui, si vous me demandez effectivement si j'aime les Juifs ou pas, oui, je ne les aime pas, c'est vrai. Mais je ne vous ai pas mal noté parce que vous êtes Juif. Je vous ai mal noté parce que votre niveau de compétence n'était pas assez élevé. Donc on voit dès le début, on cerne bien le personnage dès le début. C'est un antisémite, mais c'est un fou de la vérité. C'est quelqu'un qui va combattre l'injustice, il ne supporte pas l'injustice. Et je crois qu'il y a une scène qui fait déclic dans le film, c'est le moment où le général Mercier lui dit « Écoutez, on va faire comme si vous n'avez rien vu, et puis on continue comme ça, c'est pas grave si Dreyfus est en prison. » Et l'autre lui dit « Mais c'est impossible ce que vous dites, c'est impossible. Vous savez très bien qu'il y a des preuves de son innocence, et vous voulez que je continue à faire comme si. Et ça, c'est pas possible. » Et à ce moment-là, c'est vrai que ça fait des clics. Et c'est quelqu'un qui va risquer sa vie, hein. Il va risquer sa carrière, jusqu'à cette scène finale où, d'entrevue entre Dreyfus et Picard, et où le spectateur, comme Picard, attend quand même un petit mot de remerciement. Parce que c'est vrai que Dreyfus a croupi 7 ans en prison. Enfin, il a vraiment passé une partie de sa vie, une partie vraiment de sa vie militaire en prison. Il aurait pu y passer toute sa vie. Il aurait pu, si Picard s'était pas démené pour le sauver, c'est vrai que la moindre des choses aurait été quand même quelques mots de remerciement qu'il n'aura jamais, finalement. Est-ce qu'il les a eus ou pas? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait de Dreyfus un personnage qui est plutôt antipathique. Et ça, c'est intéressant. C'est là où on voit que Polanski n'est absolument pas tombé dans le piège d'un manichéisme quelconque. Le personnage est pas très, très sympathique. Et alors, on a un antisémite qui est un fou de la vérité, qui va la défendre coûte que coûte. Hein, il me fait penser il illustre parfaitement presque cette phrase de Voltaire, hein, qui disait « Je ne suis pas d'accord avec vos idées, votre opinion, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez les défendre. » C'est exactement ça, Picard. C'est qu'il n'aime pas, Dreyfus, il n'aime pas les Juifs, il ne supporte pas l'injustice. Donc, il va se battre jusqu'au bout. Et c'est vrai que Dujardin, c'est pas facile de jouer, surtout pour quelqu'un qui est comme Jean Dujardin, un comédien comme Jean Dujardin, c'est pas facile de jouer un personnage impassible. Et ça lui demande sans doute beaucoup d'efforts, beaucoup de retenue, beaucoup de contenu. C'est vraiment un rôle, enfin, ce sera forcément un rôle important dans sa carrière. Ça, c'est vrai. Tout ça est vrai.
Vous écoutez Dominique Legrand, auteur de La Passion Polanski, paru chez Marais Éditeur, au micro de Culture Prohibée.
J'ai lu dans Libé l'article d'un historien, je crois, j'en suis sûr, qui dit que le film n'est pas fidèle à la réalité, qu'il prend des libertés. Bon, à la rigueur, en tant que cinéphile, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, parce que comme le dit Toré, parfois pour pouvoir exprimer l'histoire, la vérité de l'histoire, il faut savoir tordre le cou à l'histoire aussi. Donc, est-ce que le film, effectivement, prend de si grandes libertés que ça? Et en quoi, en quoi ça serait gênant, quoi?
Alors, le problème, c'est que moi, je suis pas historien et je connais pas suffisamment l'affaire Dreyfus, beaucoup moins que Robert Harris, sans doute, pour pouvoir juger. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait déjà eu alors, c'est vrai que c'est le premier film sur l'affaire Dreyfus. Auparavant, il y avait eu un téléfilm par Yves Boisset il y a quelques années, mais là, qui vraiment collait au personnage de Dreyfus. On s'intéressait plus, à l'erreur judiciaire et pas tellement au personnage de Picard. Là, on est plus dans le personnage de Picard. Ce qu'on peut dire aussi, ce qu'aurait pu rajouter Polanski et simplement même par un petit texte à la fin, c'est que Dreyfus a été un très très bon soldat en 14-18. Hein. Il s'est illustré et il a largement été réhabilité aux yeux de la France, mais trop tard. Mais ça a été un très très bon officier. Voilà, donc toujours aussi peu sympathique, mais très bon officier quand même. Alors, où est la vérité? Je pense effectivement que Robert Harris a fait un travail d'historien. Alors effectivement, quand on s'attaque à un sujet comme ça, on va se heurter à une meute d'historiens qui sont plus qualifiés les uns que les autres, qui vont chercher qui détaille historique, parce que forcément il y en a. Et c'est vrai que ce que dit Jean-Baptiste Torec, un film doit rester avant tout un film. C'est Costa Gavras qui dit toujours ça, qui dit voilà, on m'a toujours dit que je faisais des films dossiers, mais je fais aussi des films. Enfin, c'est surtout des films. Il ne faut jamais oublier la part de spectacle dans un film, quelle que soit l'enquête. Par exemple, si on pense au JFK de Stone, c'est un film très compliqué, très complexe, très fouillé, très, très fourni, très dense, mais en même temps, c'est un spectacle. En même temps, voilà, il y a un sens de la mise en scène, il y a un sens de l'histoire, il y a un sens de la narration qui fait que c'est un film qu'on doit pouvoir suivre facilement, en tout cas d'une façon haletante comme un thriller, même si c'est un film à base de vérité historique. C'est un peu le cas de son Dreyfus. Hein. Alors, c'est vrai que je connais pas tout en détail, mais le film se laisse voir d'une façon complètement limpide. Hein.
Il y a aussi une chose que j'ai notée, c'est rendre des faits réels mis en scène au cinéma ou même une adaptation de roman qui passe très bien au roman, mais parfois la réalité mise en scène au cinéma, ça passe pas, on n'y croit pas, alors que c'est quelque chose de réel, et parfois l'avoir mis en scène au cinéma, bah ça passe pas. Donc je pense que moi, de toute façon, ça mérite une adaptation. Il faut toujours adapter parce que effectivement c'est du cinéma, puis de toute façon cinéaste historien, c'est pas le même travail.
C'est pas le même travail. Bah, tout à fait, absolument.
Il y a aussi une scène du film alors qui fait un peu polémique dans le cadre de la polémique actuelle qui entoure la sortie du film. Évidemment, on ne va pas revenir dessus, tout le monde la connaît. Et qui pourtant, moi, je trouve là qu'on attaque de manière un peu imbécile Polanski, c'est la scène où il apparaît dans le film avec un costume d'académicien. Voilà.
Oui.
Et on sait que les académiciens, à l'exception d'un, je crois, n'ont absolument pas soutenu Dreyfus. Donc, Polanski, quelque part, il se met pas dans une position aimable. C'est très intelligent, moi, je trouve, comme manière de procéder de la part de Polanski. Et pourtant, aujourd'hui, certains lui reprochent de dire qu'il endosse le costume de l'académicien justement pour dire le contraire de ce qu'il prêche. J'avoue que j'ai un peu du mal à m'y retrouver, moi, dans tout ça.
Alors, faut pas oublier... Enfin, c'est compliqué. De toute façon, toute sortie maintenant d'un film de Polanski sera compliquée. Alors, bon, c'est vrai qu'il a 86 ans. Hein. Il va plus en faire. Il en fera pas 10 ou 15, hein, c'est sûr. À chaque fois, on se dit c'est le dernier. Bon, même s'il est en forme, et c'est vrai qu'il est. C'est incroyable quand on est sur un tournage et qu'on voit travailler. On n'a absolument pas l'impression que c'est quelqu'un qui a 86 ans. Hein. Ça, c'est vraiment effarant. Quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment. On a vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui a 50, 60. Ans, il a une énergie absolument incroyable, il n'arrête pas de se lever, de s'asseoir, d'aller voir, de faire 20 mètres, de revenir en arrière, de tout vérifier. il a une, voilà, c'est pas un vieillard sur un tournage, hein, c'est quelqu'un qui a une jeunesse en lui, une vitalité absolument prodigieuse. Alors c'est vrai que de toute façon aujourd'hui toute sortie de film est compliquée, et je pense que c'est quelqu'un qui est toujours très malin, déjà au départ quand il s'est attaqué à l'affaire Dreyfus, et déjà rien que le fait de l'appeler J'accuse, bon, c'est assez provocateur. Il aurait pu l'appeler tout simplement Dreyfus, bon, il fallait trouver un titre porteur et un titre qui fasse écho, qui soit assez choc. Et c'est vrai que J'accuse, c'est intéressant. Bon, ça rappelle bien sûr le papier de Zola. Ça rappelle aussi le film d'Abel Gance, hein, sur un autre sujet, hein, complètement différent. Mais J'accuse, c'est quand même un titre très fort, dont se sont servis bien sûr les journalistes pour la polémique, et puis tous les mouvements qui ont surgi avec la polémique. Bien sûr, on n'a pas oublié d'utiliser ce titre qui s'est retourné finalement contre Polanski. Alors, est-ce que ça, ils pouvaient le prévoir ou pas? Ça c'est compliqué, surtout que la polémique a surgi quelques jours avant la sortie du film. Mais je pense que c'est assez facétieux. C'est quelqu'un qui est assez malin et qui aime bien s'amuser, qui est assez provocateur quand même dans un sens, parce que se mettre en position d'académicien, voilà, on peut presque lui reprocher. Oui, bien sûr. Non, je crois qu'il y a quelque chose un peu de provocateur et c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, quoi. Bon, voilà, je pense que c'est à cet effet-là qui s'est mis en scène.
De toute façon, son cinéma, tout du moins ses premiers films en Pologne, il me semble qu'il fait preuve de beaucoup d'ironie lui-même.
Oui. Ah oui, tout à fait. Dès le couteau dans l'eau. Hein, c'est très ironique. Et puis, il y a un humour aussi, il y a un humour d'Europe de l'Est, hein, il y a un humour assez absurde. Hein. Et c'est vrai que ça, il l'a toujours cultivé, que ce soit dans Le Locataire, que ce soit même dans The Ghostwriter, il y a quand même des scènes assez drôles, des petits moments comme ça, des petits plans qui sont assez amusants. Et bon, là, c'est vrai que c'était plus difficile de faire ça dans J'accuse, mais ce qui met bien en scène quand même, c'est l'absurdité de cette administration. C'est vraiment un thriller administratif, quoi. Et de tous ces personnages qui sont figés, hein, qui sont en pleine décomposition. C'est-à-dire que quand on regarde bien, voilà, il y a des alcooliques, il y en a qui sont énormes, il y en a qui sont obèses, il y en a, voilà, on n'a pas l'impression, c'est quand même une armée qui est vraiment un état-major qui est vaillant, quoi. C'est quand il arrive, quand il prend possession de cette place au début, qui est une place de directeur des renseignements, voilà, qui est quand même assez importante. On a vraiment le sentiment que c'est un poste important. Quand il arrive dans l'immeuble, il s'aperçoit que c'est un repère, c'est quasiment un tripot, on joue aux cartes, on boit, voilà. Bon, il remet un peu d'ordre dans tout ça, mais il y a quand même quelque chose où on est un petit peu, on n'est pas loin du locataire, hein. Avec cet escalier en colimaçon, avec ces personnages figés, voilà, quand on leur donne des ordres, quand on leur parle, on a l'impression qu'ils comprennent pas très très bien, quoi. Ils sont vraiment sur une autre planète. Mais c'est toujours le même, finalement, le thème de tous les films de Polanski est peu ou prou toujours le même. C'est-à-dire, en gros, un homme seul contre un système. Hein, que ce soit Ghostwriter, que ce soit Le Locataire, que ce soit je sais pas, on peut en trouver des pas des dizaines, parce qu'il y a une vingtaine de films, on peut multiplier les exemples à foison. C'est en général toujours ce thème d'un individu qui va essayer de combattre un ordre établi, et en général il perd. Bon, dans The Ghostwriter, il perd clairement. D'ailleurs, c'est pas étonnant que ce soit un roman de Robert Harris. Bon, là, il va gagner. Il va gagner, mais à quel prix ? Mais on a toujours quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui relève du combat, de la lutte, voilà, d'une bataille acharnée pour finalement arriver à l'emporter sur le nombre. On a toujours l'impression de ça dans les films de Polanski.
En tout cas, on est tous les trois d'accord pour dire que c'est un grand film. Un grand film de Polanski, mais aussi un grand film tout court.
Oui.
Et on ne peut qu'encourager toutes nos auditrices et auditeurs à voir ce film et à le revoir, voilà, parce qu'il mérite amplement d'être vu et revu.
C'est vraiment, je ne sais pas si ce sera son film testament, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un très très grand film, très important, qui comptera, je pense, dans sa filmographie. Et puis très important dans le cinéma d'aujourd'hui, quoi. C'est qu'il y a une résonance particulière.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.